cours de philosophie de la nature par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Chaudard le 12 novembre 1992.
ça que la philosophie de la nature se sert constamment de la connaissance de la philosophie de l'art, et on en a tout simplement, j'allais dire, une preuve, c'est que la distinction forme matière relève en premier lieu de l'expérience artistique. Et c'est cela qui va servir pour comprendre la distinction nature-forme, nature-matière, en philosophie de la nature, au plan spéculatif. La connaissance pratique est génétiquement antérieure à la connaissance spéculative. Bon. Alors, l'expérience du travail et notre première expérience, ça va dans le même sens. Elle est génétiquement parlant, car cette expérience est vraiment consciente et implique un certain jugement. Oui. Donc c'est vraiment la philosophie de l'art qui est première avec l'expérience artistique. Je ne vois pas de contradiction.
Au dernier cours, vous avez beaucoup insisté sur le fait que la philosophie commençait par une analyse de l'œuvre artistique, mais au niveau de l'expérience, ce n'était pas notre première expérience que l'enfant...
Mais oui, l'enfant a une expérience de l'amour. Mais qui est très très confuse. C'est pas à partir de cette expérience que vous pouvez édifier une éthique. Absolument pas. Et c'est quand même premier. Je crois que l'enfant a une première... C'est difficile de le dire. Mais je crois que l'enfant a une première expérience à l'égard de sa mère. Oui, qui est une expérience affective. Le sourire. Vous vous souvenez de votre premier sourire? Il était si beau. C'est sûr ce que la mère dira, ça. Et c'est normal, c'est normal. Mais c'est une expérience qui était très, très cachée, très souterraine. La première expérience que vous avez, c'est quand vous êtes mis à jouer à un jeu de guerre ou à un jeu où vous avez des petits soldats et puis vous allez jouer à la guerre. Ou bien on a eu des petits cubes qu'on a construits. Mais on avait un chemin de fer qu'on a construit. C'est ça, quelle expérience. Mais c'est venu après. C'est sous un fond affectif que s'est détachée cette expérience de là. Pour faire une philosophie, il faut une expérience parfaitement consciente. Je ne peux pas faire une philosophie sur une conscience imparfaite, sur une expérience imparfaite. Alors vous voyez, c'est tout simplement l'imparfait, le parfait, quoi. Vous voyez ? Mais je crois qu'on doit dire que l'expérience artistique est première dans le sens qu'elle me permet d'édifier une philosophie de mon activité artistique. C'est quand même ça dont j'ai l'expérience la plus forte au début. Vous voyez ?
Je crois que ce qu'il veut dire, c'est qu'au dernier cours, vous aviez dit que le point de départ de la connaissance de l'homme est la nature. Vous avez dit que ce n'est pas l'art. Et là, c'est le point de départ de l'analyse. Mais par rapport à la connaissance, vous avez dit que c'était la nature.
Expérience. Vous voyez, c'est toujours très difficile parce qu'il y a toujours l'ordre génétique, l'ordre de nature. L'ordre de nature, c'est l'ordre de perfection. C'est sûr que la connaissance spéculative, quand on en venant, c'est elle qui est première en noblesse. Vous voyez ? Et donc, étant première en noblesse, elle est celle qui, d'une certaine manière, commande toutes les autres. Pour arriver à une philosophie de l'art, il ne faut pas seulement cette première expérience. Il faut déjà avoir une certaine connaissance spéculative pour bien préciser. Vous voyez ? C'est pour ça que c'est toujours très difficile. L'ordre génétique, on ne peut jamais arriver à quelque chose de parfait. Et l'ordre de nature vient tout le temps permettre un ordre génétique d'être plus parfait. Oui. Ce que je voulais souligner, c'est de ne pas tomber dans le piège, vous voyez, de la scolastique décadente, qui dit la connaissance spéculative est première. On applique la connaissance spéculative à la réalité, c'est faux. Parce que cette connaissance expérimentale de l'œuvre me permet de saisir un principe propre, donc qui n'est pas une application, qui est l'idéal. Et l'idéal, le gosse qui a l'expérience artistique, n'a pas cette expérience-là. Et pourtant, il l'a quand même. Il imite. Le gosse imite. Vous voyez, surtout dans une famille, quand il est plus jeune et qu'il est avec d'autres qui sont plus âgés, il s'imite tout de suite. L'imitation, c'est comme naturel à nous. On voit un aîné qui fait quelque chose de plus grand, on va l'imiter. Puis on voit l'autre fois, je sais faire ça. Alors, l'idée, c'est l'aîné qui l'avait, qui lui a imité. Quand vous imitez, vous n'avez pas d'idée. Vous imitez matériellement. Regardez les dessins d'enfants. C'est extraordinaire, les dessins d'enfants. C'est très beau. Il y a quelquefois des idées. On voit bien des... Ou alors, est-ce que c'est instinctif? Très difficile de savoir ça. Mais c'est sûr qu'une philosophie de l'art ne peut s'élaborer que grâce à une philosophie spéculative déjà assez avancée. Donc vous voyez, c'est toujours le parcours, l'aspect génétique, l'aspect hors de perfection. Et les deux, je ne peux pas les séparer. Je peux établir, et ça alors c'est assez net, je crois que je ne peux pas vraiment faire une philosophie de la nature, de la matière, sans emprunter constamment des analogies à l'art. C'est très curieux. Mais quand je dis ça, ça ne veut pas dire que j'ai un regard artistique sur la nature. Pas du tout. Je me sers de l'art pour expliciter. Parce que il me semble que la connaissance de l'œuvre artistique est première. Alors, elle me donne les premiers plis de mon conditionnement intellectuel. Et ces premiers plis de mon conditionnement intellectuel ne déterminent pas l'analyse, mais disposent. Pouvez-vous préciser le point de départ de la philosophie de la nature? Est-ce l'expérience de la corruptibilité de la matière? Non. C'est l'expérience du mouvement. Ceci est mieux. Ça c'est sûr. C'est pas la corruptibilité. La corruptibilité vient après. C'est parce que c'est le devenir que c'est corruptible. Mais pour Aristote, tout devenir n'est pas corruptible. Puisque les astres, ont un mouvement, ils sont incorruptibles pour lui, pas pour nous. Parce que c'est la quintessence, cette fameuse chose de la quintessence qu'on va regarder un tout petit peu quand on y sera. Donc, la première évidence, c'est le mouvement. Ceci est mieux. Oui. Et c'est très curieux que les objets d'art, la première évidence, ce n'est pas le mouvement. C'est au contraire la détermination. Oui, là vous voyez bien de ces... Et c'est là où vous rejoignez que l'expérience, d'une certaine manière, de la nature est première, parce que c'est le mouvement. Vous avez normalement, je dis normalement, vous avez connaissance de ce qui est mu avant de ce qui est. Normalement. Et pourtant, vous ne pouvez pas avoir la connaissance de ce qui est mu sans avoir certaines connaissances de ce qui est. Vous voyez comme ça se tient. Et quand vous dites ceci est mu, je crois que ça c'est la première expérience du monde physique. Ceci est mu. Et donc tout de suite vous saisissez la complexité du ceci. Et cette complexité, vous l'analysez, nature-forme, nature-matière. Et vous dites que c'est grâce à la matière qu'il peut y avoir le mouvement. nécessairement, mais pas explicité. C'est implicite. Je ne peux pas avoir l'expérience de ceci et plus avoir l'expérience implicite de ceci. Donc, de façon implicite, c'est l'expérience de ceci qui est première. Mais ce sera parfaitement explicité qu'en philosophie première. C'est dans ce sens-là que la philosophie de la nature ne peut se construire que si je ne refuse pas la métaphysique. Ce qui se passe aujourd'hui, constamment, pour ceux qui font la philosophie de la nature, c'est qu'ils la font comme une métaphysique, comme une métascience. Autrement dit, ils regardent tout de suite, hein, ça, c'est tout le temps comme ça, ils regardent tout de suite ceci ému, point de départ de la philosophie de la nature, parallèlement à ce que dit la physique moderne. Vous comprenez qu'entre l'expérience ceci ému et la physique moderne, il y a un abîme, il y a les mathématiques. Tandis qu'au contraire, ceci ému est lié à ceci, la métaphysique. Alors vous pourriez, et c'est intéressant à faire comme critique de la science, quand vous partez de la physique moderne, vous partez d'une expérimentation, et cette expérimentation implique une hypothèse, et cette hypothèse est reliée dans sa formulation aux mathématiques. La physique moderne implique la mathématique. La philosophie de la nature, Aristote, implique la métaphysique. Implicitement. Donc, tout de suite, dès le point de départ, il n'y a pas d'identification. Il y a deux mondes différents. Mais comme ils ne sont pas explicités, on ne les voit pas toujours. Et c'est ce qui rend très difficile le domaine de la philosophie de la nature aujourd'hui. Parce que nous sommes au point de vue culture imprégnés des sciences. Même si on n'est pas très scientifique, on est imprégné de ça. Alors comme modèle, puis on l'a eu quand même, première étude. On avait quand même un tout petit peu d'études scientifiques. Ça fait partie des examens. Alors on est imprégné de ça, et on a une peine énorme à revenir à l'expérience humaine où l'homme est impliqué. Dans toute connaissance philosophique, l'homme est impliqué, puisqu'il y a le jugement d'existence. Tandis que dans tout jugement scientifique des sciences dites modernes, l'homme n'est pas impliqué dedans, puisqu'elle dépend des mathématiques. Même dans les sciences humaines, la personne humaine n'est pas impliquée. On regarde les relations. Des relations nécessaires, c'est ça qu'on cherche. Et ça, c'est, il faut le comprendre, ça fait partie de notre mentalité. Et c'est pour ça que c'est si difficile de retrouver aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, un regard philosophique. Parce que les mathématiques imprègnent notre société. Et comme les mathématiques imprègnent notre société, les mathématiques, si on est dans une perspective aristotélicienne, si on est dans une perspective néo-platonicienne, ah, les mathématiques servent. C'est pour ça que si facilement on demeure dans le néoplatonisme. Parce qu'il y a une certaine complicité entre les mathématiques et le néoplatonisme. Pourquoi? Parce que le jugement d'existence dans le néoplatonisme n'est pas premier. C'est pour ça que j'insiste tellement sur le jugement d'existence, parce que c'est la clé. Et que la scolastique n'explicitait pas ça. La scolastique ne l'explicitant pas. condamnation. Tandis que ce qui est mûr,
un chemin d'existence,
ceci est mûr. Dès le point de départ, il y a autre chose. Vous disiez.
Je disais que mon point est insensible comme.
Oui. Vous saisissez ce sensible commun dans ce qui est mu. Parce que le mouvement tel que l'emploie la physique moderne n'est plus un sensible commun. C'est une relation. C'est très curieux, ça. Mais c'est une relation à l'intérieur de ce sensible commun, la quantité. La quantité, hein, vous n'avez jamais touché. Donc c'est pas insensible commun, la quantité. Le mouvement est insensible commun, vous avez raison. La figura est insensible commun. C'est les cinq sensibles communs, vous savez ça par cœur. Le mouvement, le repos, la grandeur, le nombre et la figure. Et qui dit sensible commun, dit sensible qu'on peut atteindre les différents sens. Et le fondement des sensibles communs, c'est la quantité. La quantité est présente dans chacune des sensibles communs. Mais la quantité comme telle, je ne la saisis que par l'intelligence. J'ai jamais expérimenté la quantité. J'ai expérimenté à travers le mouvement, à travers la grandeur, à travers le nombre, à travers la figura. Mais c'est quelque chose qui m'échappe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ah oui, oui, ah oui, oui, oui. Ah oui, je comprends. Mais vous êtes assis, vous êtes au repos. Ça suffit quand même, vous avez l'expérience. Et puis, vous vous levez, vous êtes mu. Et puis quand vous faites une chute, vous apercevez que vous êtes mu. Et quand vous regardez le soleil bouger ou la lune bouger, quand vous regardez, vous êtes dans un train, quand vous regardez l'autre train, vous ne savez plus lequel départ, lequel se sent, lequel bouge. Quand vous êtes dans un, c'est la fameuse expérience. On est sur la terre, si la terre se meut, et le soleil, lequel se meut. C'est propre du sensible commun. Les sensibles communs, il n'y a pas de vérité. Tu ne peux jamais savoir. Vous savez, quand vous faites tourner des petits bons hommes, ça, au bout d'un certain temps, vous savez plus, ça tourne à droite ou à gauche. C'est très curieux. Petite expérience très simple dans le mouvement. L'expérience du mouvement, vous ne pouvez plus savoir. Tu feras sur cette table un petit mouvement, vous allez être très reposant. C'est très très curieux, les sensibles communs. Les sensibles communs me mettent dans quelque chose qui est indéfini. Sauf les sensibles propres qui appliquent. C'est pour ça que quand il n'y a plus de connaissance des sensibles propres, il n'y a plus de jugement d'existence. Ça échappe. Et c'est la grande différence entre Aristote et Descartes. Descartes a peur des sensibles comme des sensibles propres. Il a peur, donc il les met entre parenthèses. Dès qu'on a peur de quelque chose en philosophie, on le met en boîte. On le met entre parenthèses. Descartes a peur des sensibles propres, alors il ne regarde que les sensibles communs. Pourquoi? Parce que seuls les sensibles communs sont mesurables. Ils sont immédiatement mesurables. Tandis que les sensibles propres ne sont pas mesurables. Je les saisis ou je les saisis pas. Alors, évidemment, pour l'expérience humaine, les sensibles propres sont toujours présents. Pour saisir ce qui émeut, il y a toujours les sensibles propres. Puisque ce qui émeut part d'une qualité à une autre qualité. C'est comme ça que je vois qu'il y a un mouvement. Quand on a quitté quelque chose de premier et qu'on entre dans quelque chose de second. C'est la simple idée, mais on ne fait plus attention à nos expériences, alors on ne voit plus ça. Et la philosophie nous redemande de faire attention à nos expériences. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Est-ce que c'est important de bien saisir ce point de départ de la philosophie de la nature? Ceci ému, on interroge alors, parce que dans ceci ému, comprenez bien qu'il y a premièrement la théorie d'Héraclite, le Pantarei, tout ému. Si tout ému, il n'y a plus de point de référence, comme on dirait aujourd'hui, donc il n'y a plus de connaissance. Héraclite dit plus de connaissance, on ne peut pas connaître le domaine sensible, c'est le domaine de l'opinion. Héraclite dit ça, Parménide le dit, Platon le dit. On n'a pas de connaissance du monde sensible. Aristote dit l'inverse. Il y a une philosophie de la nature qui regarde le monde du mouvement. C'est très intéressant de voir ça. Vous comprenez, si il n'y a plus de connaissance du mouvement, on va mesurer le mouvement et c'est la mesure qui donne l'intelligibilité. Dites 10 litres d'eau. Quelle est l'intelligibilité? Est-ce que c'est l'eau ou c'est les 10 litres? La mesure donne une intelligibilité à ce qui, en soi, n'en a pas. Et c'est pour ça que les mathématiques sont employées de façon si étonnante, parce qu'elles donnent l'intelligibilité. Elles mesurent. De manière très précise. Alors, en face de l'expérience de ce qui est mu, c'est moi aussi. Hein. C'est l'homme, c'est sûr. Mais c'est la réalité physique que nous voyons, que nous touchons. C'est l'eau, ce qui est mu, sur la côte sauvage. Quand j'étais gosse et que je regardais la mer, j'ai eu le sens de ce qui était mu. C'était quelque chose qui emportait tout le reste. Et j'avais le sens de ce qui était immobile, le roc sur lequel la mer venait. Et le roc s'usait, donc il était ému aussi. Il s'usait, progressivement. Donc lui aussi était ému. Mais il y en avait un qui était plus fort que l'autre, ou qui se mouvait plus facilement que l'autre. Et on s'usait. Donc, il faut découvrir une intelligence qui est mue. C'est la première chose qu'Aristote fait. Et je crois que c'est juste. En face de tous ceux qui disent que ce qui est mu est inintelligible, parce que justement il est mu, on donne quelle est l'intelligibilité propre que je peux avoir de ce qui est mu. L'intelligibilité propre que je peux avoir de ce qui est mu, c'est de voir le point de départ du mouvement, la qualité. Qualité, point de départ, la qualité terme. Entre deux qualités, une et deux, entre deux qualités, il y a un devenir, il y a une corruption qui s'est faite. Et puis il y a un sujet. Ceci est lu, le sujet. Le sujet et les deux contraires. Tout mouvement se fait entre deux contraires. Donc vous voyez, et ça c'est ce que Bergson souligne. Mais alors je ne connais pas le mouvement. Puisque les qualités, point de départ, c'est pas le mouvement. Ça limite le mouvement. Ça mesure le mouvement. devriez à la place avoir une mesure extrinsèque qui mesure la quantité. C'est une mesure intrinsèque des qualités. Mais c'est très vrai. Le mouvement comme tel, est-ce qu'il est connaissable? Puisque en disant ça, je suis d'une certaine manière en dehors du mouvement. J'analyse ce mouvement. Je dis une qualité, l'autre qualité. Je suis parti de Roanne. Je vais à Paris. Et de Termes. Je quitte Roanne. Et je vais à Paris. Terminus et quem. Terminus ago. Le point de départ est le terme pour tout mouvement de déplacement. Vous déplacez ici et vous allez au réfectoire. Vous déplacez ici et vous allez à la chapelle. Mais il y a un déplacement. Mais c'est pas le mouvement, ça. C'est vous qui vous déplacez. Mais le mouvement, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est entre deux. Ce point aérien entre ces deux qualités, c'est ça le mouvement. Mais voyez, vous le saisissez par quelque chose qui est le point de départ et qui est le terme. Vous voyez, le sujet, mais le sujet, c'est pas le mouvement, c'est celui qui encaisse le mouvement. C'est pas le mouvement. Mais ceci, alors, c'est ça qui est intéressant, ceci n'est pas le mouvement, mais ceci me montre, moi, du critique. Fondamentalement, il peut y avoir une certaine intelligibilité. Je peux comprendre le sujet, je peux comprendre les deux corrélatifs, les deux termes corrélatifs. Je peux comprendre Roanne, je peux comprendre Paris. Et par le fait même, je peux comprendre le déplacement qu'il y a de Roanne à Paris. Et il est très subtil comme truc. Et tous ceux qui sont contre l'intelligibilité vont me dire, mais c'est très bien ce que vous faites là, mais c'est pas le mouvement. Et on est bien obligé de dire, c'est vrai, c'est pas le mouvement. Le mouvement, ça fluxus. Ça fait les gosses qui saisissent l'eau, qui est la mer, et ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Tout le temps, pas d'arrêt. C'est comme ça, caractéristique, ça coule tout le temps. Le mouvement, c'est fluxus. Et fluxus, dès que je le saisis, c'est plus le mouvement. Dès que je saisis le mouvement, c'est plus le mouvement. Il faut bien comprendre ce côté très subtil du mouvement, point de vue intelligibilité, du point de vue être. Pour un ange qui regarde l'univers dans sa vision d'éternité, l'univers est en mouvement tout le temps. Ces pauvres hommes à double tête, comme dit Parménide, c'est tellement joli, à double tête, un, deux, j'ai deux têtes. Celle de Roanne, celle de Paris. Ces pauvres gens à double tête. Ils comprennent rien du tout, ils sont dans l'opinion. Alors le culot extraordinaire d'Aristote, c'est le premier qui avait ça. Il y a une philosophie, donc une connaissance nécessaire et scientifique. Scientifique au sens aristotélicien de ce qui est mieux. C'est extraordinaire ça. Pourquoi? Parce que dans ce qui est mieux, je peux saisir du nécessaire. Je saisis le sujet et les deux contraires. Il y a les trois. Un, deux, trois. Il faut trois pour une communauté. Il faut trois pointes. Trois points d'intelligibilité. Pour avoir l'intelligence du mouvement. C'est grâce à ces trois points. Alors voyez, là ce serait intéressant de rapprocher ça de la dialectique. La dialectique a toujours trois points. Mais là, regardez la différence entre l'intelligibilité de ces trois points et le point de vue dialectique. Ces trois points sont objectifs. Ils ne sont pas subjectifs. Dans la dialectique, le mouvement, c'est moi-même qui le fais. Je suis dedans. Donc là, je le regarde et je le constate. Alors, j'ai l'expérience de ce qui est vu. Ça, je peux pas le nier. Chacun d'entre nous avons l'expérience qui est vue. Quand vous descendez dans l'eau, vous avez l'expérience de ce qui est vu. Quand vous êtes... vous expérimentez un petit tremblement de terre. J'ai vu. J'ai l'impression qu'il ne faut pas que ça aille trop loin. Il faut que ça s'arrête dedans. Dans tout à crouler. Vous avez l'expérience de ce qui est mu quand vous êtes en auto et que ça dérape. Ah, c'est bien vu, ça. Ben là, vous avez vraiment l'expérience de ce qui est mu. Quand c'est conduit, oui, vous avez l'expérience de ce qui est mu, mais c'est vous qui dominez la situation. Vous la dirigez. Tout d'un coup, vous la dirigez plus. Alors, vraiment, vous êtes dans ce qui est vu. Alors, je pars de l'expérience. Je pars de l'expérience, ce qui est vu. Et je me pose la question. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement? Qu'est-ce? Toujours, première question, qu'est-ce? Vous voyez bien, cette première question, je l'ai à partir de la philosophie de la nature. Qu'est-ce cette réalité d'une réalité qui est mue? Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis que ceci est mu? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la signification de ça? Je peux me poser, en quoi se réalise ce mouvement? C'est déjà beaucoup plus facile à comprendre. En quoi se réalise ce mouvement? Ce mouvement se réalise dans la quantité. Ce mouvement se réalise par rapport à la réalité. Ce mouvement se réalise par rapport à la qualité. Mouvement d'altération. Oui, j'ai tout de suite la diversité des mouvements qui se font à partir de la quantité. Je me déplace. Mouvement local. Donc ça se fait à l'intérieur de lieu. Je subis une altération. Je suis brûlé. Je suis coupé. C'est une altération qui se fait en moi à partir de la qualité. Il y a le mouvement beaucoup plus profond à partir de la génération. Et puis un autre mouvement encore, le mouvement de croissance chez le vivant. Et le mouvement local. Je reste le même, mais je change de lieu. Donc là, vous voyez tout de suite la diversité des mouvements qui se prend du côté du sujet. En quoi se fait ce mouvement? Ben, la question, en quoi c'est la matière? Et je me repose la question, mais qu'est-ce que c'est que le mouvement? Puisque le mouvement local est mouvement. Le mouvement d'altération est mouvement. Le mouvement de génération et mouvement. Je distingue ces divers mouvements. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que le mouvement? Puisque c'est ce quelque chose de commun à travers toutes ces réalités. Qu'est-ce que c'est que le mouvement? Vous voyez, en philosophie de la nature, l'interrogation en quoi est première. Elle m'éclaire. Je vois tout de suite que le mouvement est divers. Il n'est pas un, il est divers. Qui dit mouvement dit diversité. Implique diversité. Dit complexité, non seulement parce que le mouvement est complexe, mais dit diversité parce que le mouvement se réalise dans des matières très très différentes. Et à partir de là, je me dis, qu'est-ce que c'est que le mouvement? Il est commun à tout cela. Comment ça se fait? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, pour comprendre ce qu'est le mouvement, il faut saisir que c'est l'acte de ce qui est en puissance. dépasse là le point de vue des déterminations. Les déterminations des deux contraires me permettaient de dire il y a intelligibilité de ce qui émeut. Mais maintenant il faut savoir qu'est-ce que c'est qui émeut. Le fluxus. C'est pas les deux barricades. C'est pas Rouen et Paris. C'est l'intermédiaire qui est le mouvement. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors, je suis obligé de dire que le mouvement implique un acte. Il existe. Et le mouvement implique quelque chose qui est en matière, puisque ça bouge tout le temps. Donc, c'est l'acte de ce qui est en matière, de ce qui est en puissance, en tant qu'il est en puissance. Alors là, j'ai la première, je ne dis pas définition, c'est pas une définition, hein. La première signification de ce que c'est que le mouvement. Et c'est ça que personne n'a pas vu. J'ai eu beaucoup de peine de comprendre la métaphysique de l'acte de la puissance chez Aristote. Mais c'est très curieux, ça. Je saisis là ce qu'est le mouvement. Et à partir de savoir ce qu'est le mouvement, je vais essayer de comprendre que tout mouvement implique une nature déterminée, une nature indéterminée et un agent.
cours de philosophie de la nature par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard le 19 novembre 1992.
Vivante. La nature s'oppose, se distingue à l'œuvre d'art. ne dira pas en voyant une statue, oh, quelle belle nature. Non, vous ne direz pas ça. Quand vous voyez une fleur artificielle, vous ne dites pas, oh, quelle nature magnifique. Non, vous dites, œuvre artificielle, faite par l'homme. Tandis que la nature, faite par Dieu. C'est pour ça que Dante disait que l'œuvre d'art, petite fille de Dieu, parce qu'il y a l'homme entre deux. Tandis que la nature est directement faite par Dieu. Je ne modifie pas, je peux transformer, modifier la nature, mais je ne la transforme pas complètement. Mais je peux faire changer les couleurs d'une fleur. Oui, physiquement, on peut le faire. Mais je ne peux pas changer la nature de cette fleur. Mais je préciserai la différence entre la qualité de la nature. Alors, je suis tout à fait d'accord que pour donner cette définition du mouvement de ce qui est mu en disant ce qui est en puissance, l'acte de ce qui est en puissance, c'est quelque chose qui est au terme, après avoir analysé. Je ne peux pas dire ça tout de suite. Ce que je peux constater, c'est qu'il y a un fluxus, un changement, panne d'arrêt, tout coule, tout change. C'est la première chose que je constate. Je constate qu'il y a des choses qui changent très vite et des choses qui mettent très longtemps à changer. La pierre met longtemps à changer. Et nous constatons que des pierres qui, pendant des années et des années, sont restées intactes, durant ce siècle, commencent à s'effriter. Et c'est le signe que notre atmosphère, que le climat dans lequel on vit, est nocif, corrosif. La grotte de Nazareth, qui jusque-là était restée intacte, depuis 50 ans, commence à s'effriter. À Athènes, c'est la même chose. Quand vous regardez les œuvres d'art qui sont dehors, ça s'effrite. Le Panthéon s'effrite. Parce que nous vivons un monde qui n'est plus naturel, qui est abîmé par la pollution. Alors, nous allons continuer à essayer de voir l'induction de la nature. C'est la première induction, spéculative. La première induction, c'est celle qu'on fait en philosophie de la nature, en philosophie de l'art. Et c'est la découverte de l'idéa. Là, on fait une induction pour découvrir l'idéa comme principe de l'œuvre d'art. On pourrait dire qu'il y a une première induction dans le travail, c'est vrai. Mais l'induction propre commande toute l'œuvre d'art, c'est l'idéa. Au plan spéculatif, la première induction, la plus simple, c'est la découverte de la nature forme et de la nature matière. Attention, quand je dis ça, c'est peut-être pas tout à fait juste. Ce qui est mu. Je constate ce qui est mu. Je dis tout ce qui est mu par un autre. C'est-à-dire que ce qui est mu n'est jamais premier, est toujours quelque chose de second. par le soleil. On constate ça, l'eau de la mer. La neige peut fondre sous la chaleur. Et l'eau peut devenir de la glace. Modification. Tout ce qui est mu est mu par un autre. Alors, quand je dis ça, est-ce que c'est un principe ? C'est une sorte d'axiome que je constate. C'est pas au sens strict un principe. Je constate que ce qui est mu, soyons attentifs, voyons bien, on verra qu'il y a un autre. Qu'il me. Il subit l'influence d'un autre, si vous voulez. Tout ce qui est capable d'être mu, tout ce qui est mu, subit l'influence d'un autre, en tant qu'il est mu. Et cet autre, c'est un principe efficient. Principe propre efficient. Là, on voit que le devenir, ce qui est mu, le devenir, n'est pas premier. Il exige, il pose un principe propre, efficient. Et ce principe propre, efficient, est immanent, extérieur. Autre. Mais il est en connaturalité avec ce qui est mu. Donc il n'est pas autre d'une manière absolue. Il est en communion avec un autre. Il faut un point de contact. Autrement, il ne pourrait pas être mu. Tout ce qui est mu par un autre. Axiome. Et cet autre est une nature. En connaturalité avec ce qui est mu. Et cependant, plus déterminé que ce qui est mu. Il est actif. Certaines natures actives, causes efficientes. À cette réalité qui est mue, prenez ce qui est radical dans le point de vue de la philosophie, de la nature ou de la matière. Oui, collez les deux. C'est justement de voir comment le feu est mu vers le haut. Le feu est un élément actif sur l'eau, sur la nature, le bois, et transforme. Et le tout de l'univers physique subit l'influence du soleil, de la lune, des étoiles. On constate cela. Il y a un mouvement incessant parmi les réalités fondamentales, élémentaires. Qu'est-ce que c'est ? Comment expliquer ? Ce mouvement, qu'est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Ce mouvement implique une détermination et une indétermination. Donc, cette nature cause efficiente implique une nature forme, c'est-à-dire déterminée, une nature matière, façon extérieure sur une nature qui est une réalité qui est mue. C'est pas le mouvement naturel. Et je jette en l'air quelque chose, une balle. C'est pas le mouvement naturel. C'est un mouvement artificiel. Le mouvement naturel est immanent à la nature. Il est selon la détermination et il modifie la nature matière. C'est ça qui est très difficile pour nous à bien saisir. Parce que quand on dit tout ce qui est mu par un autre, on pense tout de suite à une œuvre artificielle. Et c'est vrai que regardez la créée, si elle est mue par un autre. Ça, vous comprenez tout de suite. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de comprendre ce que c'est que le mouvement naturel, qui n'est pas le mouvement artificiel. Le mouvement artificiel vient de quelque chose qui est extérieur à la réalité mue. Alors que le mouvement naturel est immanent à la réalité mue. Et donc, la cause efficiente, c'est la nature immanente à cette réalité. Cause efficiente, la nature, elle est ou formelle ou matérielle. Formelle parce que tout mouvement est déterminé. Et matériel, tout mouvement peut être transformé en autre chose. Je crois que c'est ça qu'il faut essayer de saisir. Donc, vous constatez quelque chose, et vous constatez que ce quelque chose change. Il change en raison de des différents éléments qui sont autour de lui. Mais vous constatez tout de suite la différence entre un mouvement artificiel et un mouvement naturel. Le mouvement artificiel venant de l'extérieur et ne respectant pas la nature qui est mue. Tandis qu'au contraire, le mouvement naturel respecte ce qu'est cette nature. Et c'est dans ce sens-là qu'il est immanent. Donc la nature est un principe immanent de ce qui est mu. Et ce principe naturel immanent, de fait, va se diviser en principe. Fondamentale de la réalité. J'appellerais ça nature-forme. Mais pour que cette réalité puisse être mue, il faut qu'elle soit capable non seulement d'être déterminée par cette forme, mais encore d'être déterminée par une autre. J'appellerais ça nature-matière. Donc vous voyez, il y a ça qui est assez complexe dans cette induction. C'est une induction qui tout de suite se divise. Et ceci montre la complexité de la nature. Je ne vous dis pas directement à la nature forme et à la nature matière. J'y aboutis à travers la nature cause efficiente immanente. Et je vois que cette cause efficiente, immanente, qu'est la nature, implique nécessairement deux aspects, nature-forme, nature-matière. Et je précise que cette nature-forme, qui implique la détermination, est source de finalité. Cause finale. Que cette cause finale acquiert toute sa elle. La nature matière est source d'indétermination et source du hasard. Mais c'est curieux que tout ça se tient. Que la finalité n'est pas toujours réalisée dans la nature, dans les réalités naturelles. La finalité échoue à cause de la matière, qui est source de potentialité, et qui par le fait même qu'elle est source de potentialité, elle est source de déviation. Et qui fait que soudain, un mouvement naturel s'arrête. Il ne va pas dans le sens. Il implique quelque chose qui va à la dérive. La bonté de la nature provient de la forme. Et la potentialité de la nature va mettre cette nature toujours en péril. En péril de corruptivité. Ce qui est mu est toujours corruptible. Ce qui est mu, c'est l'inverse de l'éternité. C'est l'inverse de quelque chose qui demeure. Et c'est pour ça que cette nature forme a ce caractère tout à fait particulier d'être forme d'un mouvement. D'un mouvement propre à cette nature. Et que ce mouvement fait que cette détermination disparaît. Pour en mettre une autre. On est dans le devenir permanent. Et ceci est important à souligner parce que ça montre que cette détermination de la nature n'est pas du tout une détermination immobile et qui demeure à la différence de la substance. C'est une détermination du fluxus, du changement, du devenir. C'est vraiment à l'intérieur d'une réalité mue que je découvre cette nature. Et je la découvre dans cette temps. Je la découvre comme ce qui rend compte du mouvement de la nature. S'y rend compte, celui qui rend compte de ce contact que j'ai eu avec la nature, ça donne telle ou telle modification, telle ou telle manière d'exister, mais d'exister dans le devenir. C'est pour ça que cette analyse que je fais de la nature est très importante pour comprendre le caractère propre du devenir. Le devenir naturel d'une réalité implique une nature. Et donc implique un quelque chose qui est déterminé. Un quelque chose qui demeure déterminé dans l'immanence de ce mouvement, mais qui en même temps est toujours changeant. C'est ça qui est délicat, Héraclite, le Pantareï. Pantareï a été comme une constatation très curieuse que tout le monde physique est changeable. Et il est toujours changeable. Il n'y a en lui rien de stable. Et le monde physique, nous sommes du monde physique par notre corps. C'est pour ça que notre corps change tout le temps. Les apparences, ça peut rester à peu près le même. Mais autrement, ça ne reste jamais le même. Voilà la première chose qu'on doit comprendre. Voilà, je résume pour que vous compreniez bien. Première induction. J'induis la nature. Cause efficiente. chose immanente. Du mouvement. Cause immanente. C'est surtout ça qu'il faut mettre. Cause immanente du mouvement. Cause efficiente et cause immanente. Cette cause efficiente, immanente, je dis cause formelle, c'est-à-dire cause selon la forme, c'est la nature forme, et cause selon la matière, cause formelle, cause matérielle. Et voyez ensuite que cette cause formelle est source d'une détermination et d'une finalité. Et la cause matérielle est cause des déviations, source de déviation, source d'erreur. Partout la matière existe, il y a des erreurs. Vous voyez bien ça, c'est pas si commode. Il faut rester dans le devenir et comprendre que ce devenir, pensez pas au vivant, parce qu'au vivant, on comprend tout de suite l'âme. Et c'est ça la difficulté. C'est la très grosse difficulté pour bien saisir ce que c'est que la nature. Parce qu'il ne faut pas la saisir au niveau du vivant. On peut, pour nous aider, regarder le vivant. Le vivant à cause. Cause efficiente. La nature, elle est cause immanente de détermination et d'indétermination. Alors cette cause efficiente est toujours liée à la forme et à la matière.
Le mouvement vient de la forme ou de la nature matière, ou est-ce qu'il vient des deux ?
Il vient des deux. Je ne peux pas le séparer. Le devenir implique forme et matière. Je l'analyse. Mon intelligence peut analyser. Mais je ne peux surtout pas séparer. Ce ne serait plus la nature.
Vous voulez dire que...
Prenez l'eau. Prenez le feu. Le feu est feu. Il a un mouvement propre. Du feu. Oui.
Vous voulez dire que... Une nature déterminée, au fond, quand elle est corrompue, c'est à cause de la nature matière.
C'est à cause de la matière qui est dans l'indétermination.
Et le passage, au fond, à une autre forme, c'est à cause de la nature forme.
Ah, passage à une autre forme. Non, c'est sous l'influence d'autre chose.
C'est-à-dire ?
Parce que la forme reste déterminée, le feu reste feu. Il s'éteint. À cause de quoi ? À cause, il s'éteint. Le feu s'éteint. Il s'éteint lui-même. À cause de quoi ?
La détermination.
À cause de la matière.
Ouais.
Oui. Donc, la détermination, la forme, tant que la forme est suffisante, le feu reste feu. Et le feu peut agir même sur les autres, parce qu'il est l'élément actif. Mais en tant que feu, c'est cette nature particulière. Il y a ce mouvement particulier. Il y a ce mouvement du monde qui va vers le haut.
Donc ça, ce mouvement vers le haut, c'est pas du tout quelque chose d'indéterminé.
Ah non, c'est quelque chose de déterminé, qui tient la nature du feu. Puisque c'est à propos des éléments qu'on voit le mieux ce que c'est que la nature. Donc l'eau, le feu, la terre. Et dans la terre, on verra des tas de choses différentes. Puisque vous verrez ce que c'est que la pierre, ce que c'est que le granit. molle. Voilà la même chose du tout.
Vous voyez, la bouche qui a brûlé une fois.
Oui.
Ce qui reste, la cendre, est-ce qu'on peut parler encore, ou est-ce qu'on peut encore dire que cette cendre qui reste, c'est une détermination?
Ben oui, parce que la détermination, c'est pas rien. La cendre, la poussière de cendre, c'est une détermination. C'est ce qui a été brûlé.
Donc on peut parler du passage d'une forme à une autre forme.
Oui, tout à fait.
Est-ce que c'est pas plus par l'aspect de la détermination? Détermination de la réalité quand elle est au repos et détermination du mouvement de cette réalité qu'on atteint à la nature.
Oui, tout à fait. Et la nature des deux côtés.
C'est l'aspect déterminé.
Il y a un élément permanent dans la nature à l'intérieur du fluxus. C'est la forme. La nature forme n'explique pas le mouvement. Et la nature forme explique la détermination du mouvement. Vous voyez ? Le fait que la nature feu est une nature active, plus forte que la nature eau. Le feu agit sur l'eau. Mais le mouvement feu, le mouvement du feu sur l'eau, n'est pas le mouvement de l'eau, puisque c'est la destruction du feu. C'est la destruction de l'eau, je veux dire. Et c'est ça qui est très difficile pour nous. Et à bien saisir ce monde physique dans ce qu'il a de tout à fait élémentaire et fondamental. Parce que c'est par les qualités que nous déterminons la nature. Les qualités propres, les qualités premières, que vous déterminez le feu, que vous déterminez l'eau, que vous déterminez la terre. Mais à partir de là, vous pouvez induire d'une façon générale, qu'il y a un mouvement naturel, ce qui est mu naturellement, implique une détermination immanente qui explique la détermination de ce mouvement, qui ne se fera que sous l'influence d'autre chose. Et l'indétermination radicale viendra de la matière. De sorte que vous pouvez, quand il s'agit de la nature, regarder la nature comme forme, comme matière, comme efficacité efficiente, comme finalité. Et c'est toujours la nature. C'est la même nature dont je peux discerner ces différents points.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un ordre dans les éléments?
Oui.
Est-ce qu'on peut dire que...
Un ordre d'un élément actif vers un élément passif.
Parce que tous agissent les uns sur les autres.
Oui, ils agissent mutuellement les uns sur les autres. Et la nature, vous voyez, quand le feu s'éteint, c'est qu'il n'y a plus assez de feu. Et que la matière est trop forte. L'humidité est trop forte. Et l'humidité est victorieuse du feu. C'est comme ça qu'on a pris, c'est comme ça qu'on a inventé des pompiers. Bon, essayez d'arrêter le feu. Mais c'est quand même une trouvaille, il fallait trouver ça. Quand vous voyez le feu d'une forêt, arrêtez le feu d'une forêt. Vous voyez, c'est relatif. Et alors, il faut bien comprendre que l'intelligence saisit dans ce panne pareil des déterminations. Et c'est pour ça qu'Aristote commence la physique en disant que il y a dans le mouvement physique, il y a des déterminations. S'il y a des déterminations, il y a une intelligibilité. Autrement, il n'y a aucune intelligibilité. Et on s'en va du pantareil n'ayant aucune détermination. Toute chose coule.
Est-ce que
ceci
dit la nature matière n'est pas seconde? Dans le sens où je suis obligé de la poser pour rendre compte du mouvement.
Oui, évidemment. Je veux expliquer, quand je me pose la question, en quoi le mouvement? Qu'est-ce qu'il est? D'où vient-il? Sa finalité? Oui, c'est ça qui est très curieux et ça qui est intéressant à voir. Hein. C'est que si ces interrogations ont commencé en philosophie pratique à l'égard du travail, à l'égard de l'amour d'amitié, à l'égard de la politique, donc les trois racines, les trois aspects d'une philosophie pratique, c'est à l'égard de cette philosophie pratique que mon intelligence s'est éveillée en premier lieu. C'est pour ça que les premiers sages sont des législateurs. Ça, c'est très net historiquement. Thalès est un législateur. Et les premiers sages en philosophie grecque sont des législateurs. Ce sont des philosophes de l'éthique et de la politique. Et tu vas tuer. De là, on passe à connaître quelque chose de plus radical que le travail. Ce sur lequel on travaille. On se pose la question, qu'est-ce que c'est ? C'est très bien de dire matière, mais cette matière est déterminée. Donc je peux préciser. Qu'est-ce que c'est ? Le poids. Le poids, parce que c'est houlet. Le même mot que matière, houlet. Le poids. Le poids, c'est une nature, le poids. Il a telle qualité, telle... Et puis dans le bois, il y aura différents bois. Ce qui montre bien les déterminations différentes. Vous voyez ? Et cette première connaissance et détermination se fait grâce, d'une part, à l'expérience des diverses qualités, et d'autre part, à la transformation de cette matière par l'art. Vous avez deux facteurs qui vous aident à comprendre la nature. Le regard, le toucher, l'odorat, et même l'ouïe. Ça vous permet de connaître ce que c'est que cette nature. Et puis, vous avez aussi, d'une manière plus souterraine, j'ai travaillé cette nature. Elle résiste différemment au travail. Elle m'accompagne différemment. Donc, j'allais dire, toute la philosophie du fatuere m'aide à comprendre ce que c'est que la nature. Mais la connaissance propre de la nature se fait par les sensations. Et les sensations tout à fait premières du toucher, des yeux, du goût. Comment puis-je atteindre la signification de cette nature ? Vous voyez, là, c'est quelque chose de très élémentaire, mais très intéressant, puisque c'est le premier moment où l'intelligence connaît pour le plaisir de connaître, le désintéressement qu'il y a. Je connais pour le plaisir de connaître. Je connais parce que, comme dit Aristote, voir, ça me plaît. Alors, pour mieux voir, pour mieux discerner, j'ai cette réflexion sur les réalités qui sont vues. Et je crois que toute l'induction première repose sur ce fait, sur cet axiome, tout ce qui est vu par un autre. C'est l'axiome. Tout ce qui est vu par un autre exige que la nature à la fois soit déterminée et que la nature soit matière. Là, j'universalise quand je dis tout ce qui est mieux par un autre, et je suis au niveau d'un axiome. Pas d'une cause propre. La cause propre, c'est la nature. C'est la nature forme, c'est la nature matière. Et c'est la nature fin. Ça, c'est la cause propre. Et tout ce qui est mieux par un autre, ça, c'est pas une cause. Du reste, on voit bien ce qu'on dit. Et on dit tout ce qui est mu par un autre. C'est l'autre qui est intéressant. puisque ce qui est mu est sous la domination de l'autre. Mais je ne précise pas. J'ai cet axiome général, ce principe général, principe d'intelligibilité générale pour toutes les réalités du monde physique. Tandis que quand vous saisissez la nature, vous saisissez telle nature, forme, le feu, telle nature, matière, telle nature, évision. Tout ça, je m'aperçois que c'est analysé par l'intelligence, mais ce n'est pas séparé. La nature forme existe tout le temps dans une matière. La nature matière existe tout le temps grâce à la forme. La nature forme implique une capacité d'agir sur les autres et implique aussi une capacité de bâtir. J'accepte d'entrer dans le combat. Et je vois que fondamentalement, tout repose sur les éléments. Alors, on verra la fois prochaine. Est-ce que les éléments impliquent une nouvelle induction? Ou est-ce que les éléments n'impliquent pas de nouvelle induction? Est-ce que les éléments, tels qu'Aristote nous les donne, peuvent être respectés aujourd'hui? Ou est-ce qu'il faut, grâce à la chimie organique ou inorganique, changer les éléments? Ça, c'est une très grave question et intéressante.